Madame Annie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis et chers camarades. Alors, vous le savez, le Conseil constitutionnel a enregistré 630 parrainages, je crois, aujourd'hui, pour ma candidature. Je suis donc candidate à la présidentielle. Mais, vous le savez, je resterai une petite candidate aux yeux des médias, parce que, mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité du temps de parole, les médias vont continuer d'organiser ces deux campagnes parallèles. Vous savez, le in, où il y a 5 grands candidats, et puis le off, avec les petits candidats qui n'ont droit qu'à quelques interviews distillées par-ci par-là, mais qui n'ont jamais l'accès aux grandes émissions politiques. Alors, c'est comme ça. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et sur le pluralisme de la plupart des journalistes. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Alors, vous voyez que le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner. Les travailleurs, quand ils manifestent, quand ils sont en grève, eh bien, ils ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie finalement qui est véritablement dans le système et qui ne l'est pas. Alors, on peut le prendre comme une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et je participe à l'élection présidentielle, mais à la différence des autres candidats, je ne joue pas le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé à l'Élysée ou à Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans cette élection, eh bien, nous pouvons faire avancer ce combat. Alors, j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue dans cette campagne. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et bien sûr des démêlés judiciaires. Pour la première fois, on aura donc un candidat à la présidentielle mis en examen. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, a de quoi surprendre, mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité tous ceux qui gouvernent depuis des décennies, et elle remet en cause l'alternance gauche-droite, et elle engendre cette décomposition politique que l'on constate dans les deux grands partis qui tenaient jusque-là le premier rôle. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa future majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Quelles que soient les péripéties politiciennes, eh bien le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds, parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Prenez Fillon. Eh bien, Fillon, c'est le porte-parole par excellence du grand patronat. Oh, on peut dire qu'ils l'ont bien trouvé, celui-là. Parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein, son arrogance, ses leçons de morale, du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », eh bien, c'est exactement l'arrogance et le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant à son programme, eh bien, c'est très simple. Il a repris l'intégralité de la politique du MEDEF. La fin des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, la retraite à 65 ans. Autrement dit, Fillon déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées, fraîches, originales. Mais Macron, c'est quand même le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes. Et puis c'est le culte de l'individualisme, du chacun pour soi. Macron ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter, pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron ? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'impôt sur la fortune, continuation du crédit impôt compétitivité emploi, et de l'autre, la suppression de postes de fonctionnaires, lui c'est 120 000, l'augmentation de la CSG, 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à la troisième du trio, Le Pen, eh bien c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi, elle prévoit des suppressions de postes dans la fonction publique. Et elle prévoit, elle aussi, des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent ? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce. Elle veut s'en prendre à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans, en taxant leur contrat de travail et en imposant qu'ils payent pour la couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Autrement dit, elle veut s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, c'est-à-dire diviser pour régner. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, aux parents qui est tenté par le vote Front National, eh bien, nous pouvons dire laisse ce vote aux racistes, laisse ce vote aux grenouilles de Bénitier, aux nostalgiques de la France à papa, laisse ce vote à tous ceux qui accusent les chômeurs d'être des assistés ou qui pensent que les ouvriers ne travaillent pas assez. Mais toi, vote pour tes intérêts, vote pour ton camp, vote pour le camp des travailleurs. À gauche, un mot peut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Ce revenu universel a déjà fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, c'est de l'encre qui a été gaspillée, parce que Hamon l'a déjà enterrée. Habituellement, les socialistes renient leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Eh bien là, la promesse n'a même pas tenu le temps d'une campagne. Eh bien, c'est dire si Hamon est le digne héritier de Mitterrand, de Jospin et de Hollande. Aujourd'hui, les Macron, Fillon et Le Pen, Hamon, s'opposent. Mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans classe capitaliste, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors leur politique consiste à la Madouée, à la Bichonnée, et il faut toujours que les travailleurs se plient et qu'ils acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien, je suis candidate pour dire l'inverse. Je suis candidate pour dire que les forces vives du pays, c'est nous, les travailleurs. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud, les Bettencourt, les Michelin, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans conducteur de train, sans pilote d'avion, sans leurs femmes de ménage, sans leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, leurs ateliers, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches, les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Alors oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les fortunes des actionnaires et avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louchent vers le FN, eh bien il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commande assurée. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Et il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Prenez Peugeot Citroën. Peugeot Citroën a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. En 2016, ils ont explosé les records en réalisant 2,15 milliards de bénéfices. Eh bien, PSA a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi, qui réalise 5 à 6 milliards de bénéfices chaque année, a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui. C'est la même chose chez Michelin, c'est la même chose dans le secteur bancaire, des assurances, des médias. Tous les grands groupes capitalistes sont aussi de grands fabricants de chômeurs. Eh bien, la première des choses, c'est de les arrêter de nuire. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors, il faut imposer que tous ces groupes capitalistes et que les banques soient mises à contribution et qu'elles payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi, bien sûr, créer des millions d'emplois. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible, immédiatement, en imposant la répartition du travail entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi, diminuant leur temps de travail, et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire le contraire de ce que font tous ces grands groupes avec leur plan de compétitivité consistant à imposer des heures supplémentaires et des samedis travaillés. Et regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'électriciens, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société. Et il y a donc autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus parce que le chômage, c'est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Le chômage aggrave la misère, il marginalise. Mais il pousse aussi à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre, le rejet de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, si on veut une augmentation du SMIC, il faut qu'on se la paye, nous-mêmes. Pourquoi dit-elle cela ? Parce qu'il ne faut surtout pas engendrer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas ? Eh bien, Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer le crédit, ou le crédit logement. Et parfois davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et il faut payer, après tout ça, les impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien ils doivent être transformés en salaire, parce que je l'ai déjà dit, mais tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans notre société. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC net, qui est aujourd'hui à 1150 euros, était de 1000 euros. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG du CAC 40 en 10 ans ? Eh bien de 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1800 euros net par mois et une augmentation des salaires de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien il faut qu'elles suivent aussi le coût de la vie, celle des augmentations des loyers, du gaz, des mutuelles, des taxes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors oui, ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions soient indexés sur le coût de la vie. La société est riche, très riche. Eh bien, il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple du groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que ce sont 2000 emplois qui sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Le gérant d'un magasin y est payé 1400 euros net par mois et tous les salariés, les employés, y sont autour du SMIC. Ce qui a tué Vivart, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui ont forcé les différentes enseignes à s'endetter, et auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds capitalistes, à des taux de 11, de 12%. Eh bien, si les salariés du groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer, se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare, parce qu'elle le tape et parce qu'elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent, et d'ailleurs ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer la levée de ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir et ils pourraient anticiper, s'organiser, prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et alors, si on avait accès aux vraies comptabilités de ces entreprises, eh bien on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps. Parce que bien sûr, on mesurerait aussi tout ce que rapporte l'exploitation. Alors voilà le programme que nous voulons mettre en avant dans cette élection. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses qui sont numérotées et qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. C'est un programme qui fixe des objectifs de lutte au monde du travail. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement, mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de ses intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées, dans le combat politique. Et le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales, avec toute cette palette de partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Et bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Il faut qu'ils se maintiennent aussi après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, et en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Il faut un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la place ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net à 1300 euros par mois, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que le problème, c'est que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande l'avait fait superbement en son temps. Vous vous souvenez, le discours du Bourget. Mais le problème, c'est qu'il faut dire si l'on est prêt ou pas à renverser la finance. C'est-à-dire si l'on est prêt ou pas à l'exproprier. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. Quand on appartient au monde du travail, eh bien on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir sur nous de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire complet ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos congés, nos horaires. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Y compris quand on est étudiant, comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Eh bien non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire encore en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie française. C'est brouiller les consciences et c'est une façon de détourner les travailleurs de leur véritable combat, leur combat de classe. Alors laissons les mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de l'indépendance de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète et émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives se raccrochant à un énième sauveur suprême, eh bien, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront contribué à conforter le monde du travail, parce qu'elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien, notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et qu'elle pouvait s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective, une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire, parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Et puis il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, surtout, il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, même s'il a déformé, caricaturé et trahi les aspirations des révolutionnaires, eh bien, cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit bien sûr de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée d'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement, à la haine de l'autre. Et il fait aussi le lit de cette petite délinquance du fanatisme religieux. Et quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut fermer les frontières, qu'elles soient de plus en plus étanches. Et tous, de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, et l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie et en Irak par leurs manœuvres et par leurs bombes. Et ils la fabriquent ici par le chômage et par la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au bout du compte, ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer partir à la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploiter. Il faut bien avoir conscience que nous sommes tous des migrants potentiels. Et notre intérêt, c'est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés. Je le redis, ce n'est pas qu'une question de solidarité, c'est une question d'intérêt de classe. Notre intérêt n'est sûrement pas de se battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, mais débarrassée aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Les travailleurs sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques, parce qu'il en va de la préservation de notre environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Alors oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie et de la gérer collectivement en la planifiant pour résoudre, pour satisfaire les besoins de tous et pour prendre en compte la préservation de l'environnement. Et cela, seuls les travailleurs peuvent le réaliser en prenant la tête de la société. Alors voilà tout ce que représente pour nous le camp des travailleurs, c'est la perspective d'une transformation profonde de société, c'est la perspective d'une société communiste, la seule perspective d'une société vraiment humaine. On nous met dans la tête que dans cette élection, il faut forcément viser l'élection de quelqu'un. Et donc départager les grands candidats. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais choisir le prochain président qui nous portera des coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement et le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, c'est exactement la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de travail et de vie. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, de façon à se protéger, est également un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les valeurs du mouvement ouvrier et s'il ne renoue pas avec les luttes collectives. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis, c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Au contraire, quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, on peut être fier d'être à contre-courant. Alors je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont faites ainsi, il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle et personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias, je me battrai comme je pourrai. Mais, une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, eh bien elle permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, eh bien, il y a plusieurs centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais vous le comprenez bien, je ne pourrai entraîner que ceux qui sont déjà à moitié convaincus. Bien plus largement, il y a tous les autres. Il y a tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le fait simplement d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est important. Oui, nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de toutes ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Donc vous l'aurez compris, pour que ce soit une campagne réussie, pour que ce soit une bonne campagne, eh bien il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Alors pour conclure, au lendemain de l'élection, en mai 2017, qu'est-ce qui aura changé pour nous? Eh bien, on ira au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout-puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière.